Voilà. Alors, pour terminer cette émission, nous recevons Kevin sur ce plateau. Bonjour à toi.
Bonjour à vous.
Alors, Kevin, tu as animé avec ton collègue ces ateliers autour du jeu Cite et Cap. Est-ce que tu veux peut-être nous rappeler d'où vient ce jeu, en quoi il consiste ?
Cite et Cap, du coup, c'est un jeu qui a été construit par la Ligue de l'Enseignement. Et l'idée du jeu, en fait, c'est de permettre aux gens de débattre autour de la construction d'une vie idéale, en fait. Du coup, on leur donne un plateau de jeu qui est vierge et on va leur donner ensuite plusieurs pièces qui vont représenter des bâtiments, donc un hôtel de ville, des habitations, des complexes sportifs, etc., etc. Et du coup, l'idée, c'est que à plusieurs, ils positionnent leur jeu, leurs pièces afin de construire une ville. Et en fait, chaque fois qu'ils vont poser une pièce, ils vont devoir expliquer en fait pourquoi est-ce qu'ils positionnent cette pièce à cet endroit-là, en fait. Sachant qu'on ne peut pas bouger la pièce qui a été posée par un autre. Et du coup, l'idée, c'est de s'adapter aussi aux autres et donc de construire petit à petit une ville. Et ensuite, en deuxième partie du jeu, on leur donne à chacun une délégation, donc quelqu'un qui va s'occuper de l'urbanisme, des espaces verts, etc. etc. Et du coup, à partir de la ville qu'ils ont construite, essayer ensuite de réaménager un peu les choses pour que le résultat final soit cohérent.
Et lors des... J'imagine que vous avez fait plusieurs interventions avec ce jeu, en dehors d'aujourd'hui. Quels sont les résultats à chaque fois ? Est-ce qu'il y arrive à avoir une bonne cohabitation avec tous les gens qui jouent au jeu, tous les jeunes ? Est-ce qu'ils comprennent vite aussi le fonctionnement et quand on leur attribue un rôle, est-ce qu'ils le prennent à cœur ?
Alors, je ne vais pas vous mentir, pour moi c'était une première aujourd'hui. Donc, je ne pourrais pas vous dire comment ça se passe sur les autres fois où le jeu il a été testé. En tout cas, pour cette première fois, c'était super intéressant. Parce que, du coup, déjà, cette règle de respecter un peu ce que l'autre a mis en place, elle est plutôt bien passée. Après, ça entraîne quand même certains questionnements. Mais du coup, en fait, la deuxième partie sur les délégations, en fait, elle est là pour ça. En fait, c'est du coup, ces trucs un peu qui vous ont fait tiquer, revenir dessus et expliquer un peu pourquoi vous auriez fait autrement, en fait.
Ok, donc il y a vraiment deux phases de jeu qui permettent de se remettre en question sur la première chose.
C'est ça, il y a une première phase où on pourrait dire à chaud, où on pose, et on essaie aussi de construire un truc cohérent s'adaptant aux autres, et du coup la deuxième phase, où vraiment là on va un peu plus loin dans la réflexion, et on essaie d'avoir un résultat cohérent à la fin, et donc de discuter, de débattre sur ça je le mettrais plutôt là, parce que c'est plus pertinent ou pas en fait, et du coup l'idée... Après, c'est qu'on essaie d'arriver à un résultat qui ressemble à peu près à une ville où on pourrait y vivre, en fait. Sachant que, du coup, ce qu'on leur a donné comme thématique, du coup, c'est la ville idéale, en fait. Du coup, comment la ville idéale, elle est aménagée, comment les bâtiments sont organisés, etc., etc.
Et dans ce premier essai, aujourd'hui, vous avez l'impression que les jeunes ont appris des choses. Par exemple... Il y a une personne qui, quand on a reçu certains des jeunes, nous parlait d'écolieux. Ils ne connaissaient pas avant, forcément, du moins pas le terme. Est-ce qu'il y a eu d'autres, comme ça, des questions, des réponses qui leur ont été apportées, qui ne se posaient peut-être même pas comme questions ?
Après, c'est assez difficile de quantifier ça parce que c'est allé très, très vite entre les deux groupes. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir... que à travers ce jeu-là, en fait, on se rend compte que sur certains sujets, en fait, on est vachement formaté et que du coup, la construction d'une ville idéale, elle n'est pas si évidente que ça et qu'on va avoir tendance à reproduire en fait des schémas qu'on connaît et dans lesquels on est enfermé et que du coup, essayer de les amener à sortir de ça, c'est pas forcément évident en tant qu'animateur.
Toutes les consignes que tu es en train de nous rappeler, qui étaient données pour pratiquer, pour jouer le jeu que vous avez fait, de construire une ville idéale, et la remarque que tu viens de faire à l'instant, là, que la ville idéale, elle est différente selon chacun, et que potentiellement, en plus, si on la construit réellement, peut-être qu'elle ne fonctionnerait pas. Ça me rappelle un jeu vidéo qu'il y a quelques années, je dirais même quelques décennies, qui s'appelle SimCity 3000. Donc je peux en parler sans problème parce qu'aujourd'hui il est tombé dans le domaine il est ce qu'on appelle en abandonware, donc en fait il est téléchargeable gratuitement. Et j'ai beaucoup pensé à ça en fait, parce que c'était vendu à l'époque comme un jeu. C'est pour ça que, comme beaucoup, je pense, il y a quelques années, on me l'avait offert en pensant que j'allais beaucoup m'amuser en y jouant, et en réalité c'était une vraie prise de tête. Le plaisir est venu bien plus tard, parce que justement on pouvait construire une ville, se rendre compte qu'on construisait des villes qui ressemblaient à celles qu'on connaissait, que dans le jeu en fait on voyait que ça fonctionnait pas, notamment sur les transports, sur les flux, enfin les villes étant paralysées par les embouteillages, et ça ressemble fort à ce qu'on connaît. Et du coup je me suis fait cette réflexion que peut-être que ça serait intéressant aujourd'hui de refaire jouer des participants, des jeunes à ce jeu. Alors vu qu'il est tombé dans le domaine public, peut-être qu'on pourrait proposer des stages SimCity 3000 aux jeunes. Je sais pas quel regard tu portes, si tant est que t'es déjà joué à ce jeu, mais sur cette gestion totale d'une ville et des problèmes qu'il y avait, parce qu'il y avait des problèmes de transport, mais il y avait même les problèmes sociaux, de criminalité, liés à l'emploi, enfin il y avait tout y était quoi.
Non, SimCity, je connais un petit peu, et en fait, ça fait partie de ces jeux qui sont super intéressants, parce que du coup, t'as une vision un peu omnipotente d'une ville, et souvent dans la manière dont en fait ces jeux sont construits. En fait, parfois, alors je connais pas très bien les SimCity. Mais c'est peut-être moi. Mais il y avait un peu des jeux dans ce style-là, au final, qui servaient un peu à déconstruire un peu, du coup, tout ce qui est modèle capitaliste sur construction de villes et leur gestion. Et que tu te rends compte, en fait, Nal, que du coup, tu vas te mettre en tête des objectifs qui vont pas forcément être le bonheur de tes citoyens, mais qui vont être la recherche du rendement et de l'efficacité en fait. Et du coup, pour refaire un peu le lien avec CityCap, du coup, ce qui ressortait un peu du coup des échanges avec les jeunes par le biais du jeu, c'est qui recherchait pas forcément un modèle idéal ou une ville parfaite, mais plus une ville où il pourrait y vivre et que ça serait efficace. Donc ça serait éviter les conflits. Donc on va pas mélanger des structures un peu sensibles, notamment tout ce qui est autour du culte, parce que on a appris, on a grandi avec cette image que du coup chacun doit pratiquer sa religion dans son coin, que tout ce qui va être commerce, comme en fait nous ça fait pas partie de notre réalité, de notre quotidien, le commerce de proximité en fait ça nous parle pas. Et donc, on va se permettre de rajouter dans le jeu, parce que du coup, je ne l'ai pas dit, mais il y a la possibilité, en fait, s'il manque des bâtiments, de rajouter des bâtiments en les inscrivant. Et du coup, ce qui revenait aussi souvent, c'était le centre commercial, en fait. Parce que du coup, ça fait partie de leur quotidien, eux, ça fait partie de leur modèle. Et qu'on ne va pas se mentir que du coup, eux, leur réalité, elles sont économiques et efficaces. Et du coup, les centres commerciaux permettent de se nourrir pour pas cher. Par rapport, en tout cas dans la représentation qu'on en a, permet de se nourrir pour pas cher par rapport à tout ce qui va être commerce locaux et tout. Et donc, elle semble normal et pertinent en fait de devoir rajouter un centre commercial. Il y en a même un qui l'a mis en plein milieu d'un quartier en fait. Donc comme si tu avais les bâtiments qui étaient construits autour de la ville, autour du centre commercial.
Ça existe plus ou moins dans certains quartiers, en tout cas de cette ville à Tours, si je pense au quartier des Deux-Lions, je sais pas sur une représentation vu du ciel à quoi ça ressemble, mais on n'est pas loin de construction d'immeubles résidentiels autour d'un centre commercial. Et par ailleurs, le week-end, le centre commercial est quasi finalement désert en fait, et pas le lieu. En tout cas, j'ai pas l'impression que les habitants de ce quartier viennent y nouer toute leur sociabilité. Alors après, il faudrait faire une enquête au centre commercial pour savoir d'où sont originaires géographiquement les personnes qui le fréquentent. Mais effectivement, oui, ce que tu soulignes, c'est des remarques qui tiennent aussi peut-être générationnelles aussi sur ce qu'on met à proximité de soi ou ce qu'on éloigne, ce qu'on ne veut pas avoir à côté de chez vous. Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui étaient un peu repoussoires, des choses qui étaient systématiquement mises aux périphéries de leur ville?
Le cimetière. Le cimetière, on le met loin. Et parce que bah il faut pas mettre un, faut pas mettre de négativité dans la ville, et du coup bah la mort égale négativité, donc le cimetière on le met en périphérie.
Mais je trouve ça assez édifiant, cette histoire de centre commercial, parce que déjà bah on peut douter de son intérêt, enfin de sa bienveillance comme forme de structure, mettre des habitations autour comme au de Lyon. Est-ce que du coup il y a dans le jeu il y a une volonté de dire après mais du coup, vous voyez, il y a peut-être d'autres possibilités. Pourquoi déjà vous voulez ce centre commercial, et quelles sont les autres possibilités, les apporter directement aux jeunes qui étaient là? Est-ce que vous avez fait ça?
Bah après, du coup, ça va plutôt être dans la manière d'animer. Et du coup, bah, l'idée, c'était vraiment les laisser s'exprimer. Et donc, plus essayer de susciter un peu, de les interroger, de les questionner sur le pourquoi du pourquoi. En fait, ce choix-là, sans forcément les forcer à faire un choix qui serait plus en adéquation avec bah, moi, ce que je peux penser et la vision que j'ai de la ville idéale. Sachant que moi, si j'avais pu, j'aurais tout bougé, mais, mais voilà, mais du coup, il faut...
Mais sans les, voilà, je vois l'idée, mais sans les forcer, est-ce qu'il y a juste les interroger, quoi, leur dire, vous voyez, on pourrait aussi faire comme ça, sans leur dire c'est la bonne solution, même si peut-être pour toi ça le serait, mais tu pourrais exposer ça sans les forcer. Est-ce qu'il y a déjà, t'as essayé de faire ça?
Bah, je leur ai proposé. En gros, c'est à chaque fois qu'ils faisaient un choix, du coup, bah, moi je les questionnais sur leur choix et je leur proposais une alternative. Mmh. Et ils me disaient non ou oui. Et sachant qu'en général, ce qui se passait, c'est que du coup, il y en a un qui faisait un choix, surtout sur la deuxième partie. Donc chacun avait sa délégation et donc apportait les modifications par rapport à sa délégation. Donc, bah, tous ceux qui s'occupaient de tout ce qui est commerce et services, du coup, bah, leur posaient la question, bah, la poste, pourquoi tu la déplaces ici? Et du coup, bah, après, on pose au groupe la question de la poste, est-ce que ça vous semble plus pertinent que ça soit là, ou est-ce que sa position initiale n'était pas le plus idéal, ou est-ce que vous voyez d'autres choses? Et du coup, c'est se poser la question, du coup, tous ensemble. Et après, bah, c'est le groupe qui prend la décision à la fin.
Je ne sais pas si ça peut servir plus tard de support à cette activité, en tout cas à ce jeu. Mais il faudrait regarder, faire une recherche. Ça doit pouvoir se trouver. Un documentaire a été tourné il y a quelques années sur... une ville au Pérou qui est dans la banlieue dans la périphérie de Lima, où dans les années 70 en fait il y avait une dictature militaire au Pérou qui avait expulsé militairement les pauvres de la ville, les avait emmenés par camion entier dans un coin de désert à la périphérie de Lima, en leur disant on veut plus vous voir dans la ville, on vous chasse et débrouillez-vous. Et en fait ça concernait des milliers de personnes, et en fait ces habitants ont dû s'organiser eux-mêmes pour se trouver un habitat et se créer un habitat. Et en fait, aidés par quelques architectes qui avaient épousé leur cause, ils avaient dû construire la ville idéale, mais là, sans petit morceau de carton et de papier, pour de vrai, avec leurs mains et à même un morceau de désert. Et dans le documentaire, en fait, on voit toutes ces réflexions, mais qui sont menées à une échelle gigantesque. Il s'agit de reconstruire une ville pour loger des pauvres qui ont été chassés. Et ils s'étaient posé toutes ces questions de à quelle distance des habitations, mais les services publics, combien de services publics, comment on les répartit. Et tout un travail énorme, colossal, de construction pour de vrai d'une ville qui aujourd'hui a une quarantaine d'années, qui existe pour de vrai, qui est une des plus grandes villes, il me semble, de la périphérie de Lima, et qui a fait l'objet d'études justement sur... parce qu'elle était construite telle que les habitants avaient dessiné les plans, telle que imaginaient la ville idéale. Donc peut-être qu'un jour ce jeu sera transposé dans la réalité sur un terrain en périphérie de tout, on sait pas, mais c'est vrai que pour ces jeunes, en tout cas, c'est chouette de pouvoir modeler la ville telle qu'ils l'imaginent, quoi.